Pendant la France Design Week, le collectif de designers Indigo Doc propose son nouvel opus des vitrines bleues dans l'écusson de Montpellier du 16 au 27 septembre prochain. Encouragé par le succès de la première édition des vitrines bleues en septembre 2021, le collectif de designers investit pour la troisième fois les vitrines de l'écusson et met en scène tout ce qui anime les designers d'aujourd'hui et invite les visiteurs à mieux appréhender les différentes étapes de la création d'un projet, d'un concept, d'un graphisme. Les vitrines bleues proposées par le collectif Indigo Doc, c'est du 16 au 27 septembre prochain dans l'écusson de Montpellier, un événement entièrement gratuit et ouvert à tous. Plus d'infos sur indigo-doc.com.
Alors nous continuons notre randonnée des vitrines bleues, notre circuit des vitrines bleues qui nous amène tout à côté de l'église Saint-Roch, devant une chocolaterie, mais c'est pas pour manger des chocolats qu'on y vient, c'est plutôt pour voir un travail de design. Nous sommes avec le designer qui l'a fait, qui va se présenter, et puis nous allons nous parler de son travail.
Donc, je suis Nicolas Chauveau, je suis designer au sein de l'agence Entre Autres. Et on est une agence en fait de design transversal, donc on intervient dans différents secteurs et sur différents aspects du design. On fait du design stratégique pour les entreprises, du design d'objets, du design numérique également. Moi, ma spécialité, c'est plutôt le design numérique au sein de l'agence, et ce travail que je vous présente, c'est plutôt un travail de design produit qui a été réalisé par les autres membres de l'agence. Donc nous, on est une agence qui est à cheval entre Montpellier, Cré dans la Drôme et Lyon. Donc, on a trois bureaux. Et ce projet-là en particulier, c'est quelque chose qui nous a été demandé dans un partenariat avec Decathlon.
Alors, Decathlon, Decathlon, tout le monde sait de quoi il s'agit. Hein. Fabricant d'articles de sport, de plein de sports différents, qui produit, qui fait ses propres produits, oui. Enfin, qui fait élaborer ses propres produits. Alors, quel est le produit que vous nous avez élaboré à la demande ou sur la commande avec, j'imagine, un cahier des charges très précis pour Decathlon ?
Alors, c'est un sac à dos. C'est en fait la nouvelle version, la version 2023 d'un sac à dos de la gamme MH100, donc pour mountain hiking, donc c'est pour la randonnée. Un modèle existait déjà auparavant en 20 litres, en 35 litres. Mais pour la gamme 2023, Decathlon avait pour objectif principal de faire réduire en fait l'impact écologique au moment de la fabrication du sac de 20%. Donc il a s'agit de travailler avec eux, avec toute leur expertise et les techniciens de chez eux, sur les moyens de faire réduire en fait cet impact à la fabrication et grâce à des principes de design, des astuces et des choix, on a pu atteindre en fait cet objectif.
Mmh. Voilà. Alors, quelles ont été les... Alors, il y a réduire l'impact, mais j'imagine qu'il y avait d'autres contraintes que vous avez dû prendre en compte.
Alors, les contraintes de prix, c'est-à-dire qu'il faut que le sac lui-même reste dans une accessibilité, puisqu'on est sur un sac, le 20 litres, par exemple, de ce modèle-là, il est vendu 30 euros en magasin. Le 35 litres, je crois que c'est à peine plus, c'est 40 euros, donc c'est des sacs vraiment très économiques.
Oui, on reste dans des choses premier prix, comme
oui,
on dit.
Voilà, ouais, carrément, on est vraiment dans des modèles premier prix de chez Decathlon. Pour autant, un sac en fait qui nous a servi de guide en fait, c'est le sac de la gamme au-dessus qui était un vrai succès commercial, celui de la gamme MH500. Et le principe aussi de ce projet, c'était de créer une version MH100 qui soit en cohérence en termes de design avec ce design langage qu'on avait appelé le design langage de Quechua en l'occurrence, qui est la marque randonnée de Decathlon. Et on a donc fait plusieurs choses qui étaient d'abord donc de voir en fait ce qu'on allait garder dans l'ancienne version du sac comme principe technique et comme élément pour ne pas en fait retravailler ce qui fonctionnait bien. Donc ce qui a été gardé en fait dans l'ancienne version, c'est tout le dos, tout le système de bretelles, le système d'accroche et le principe d'architecture produit en fait du dos du sac. Disons, quand je dis le dos, c'est la partie qui se met sur le dos de l'utilisateur, voilà. En termes donc sur l'avant du sac, du coup, on a pu travailler en transformant vraiment le dessin de l'ancienne version vers cette nouvelle version qui correspond beaucoup plus et qui s'apparente beaucoup plus en fait au design langage correspondant à la gamme MH500. Et à partir de là, on a aussi intégré bien sûr les contraintes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc pour rentrer dans les contraintes de prix et dans les contraintes d'impact écologique, on a fait quelques choix. Donc je vais vous en donner quelques-uns. On a utilisé le principe du dope-dye, donc, c'est-à-dire que les tissus et les couleurs possibles en fait, pour les matières sont parmi une gamme très, enfin, relativement restreinte de teintes qui sont en fait du fil teinté à la source. Au moment où le fil est fabriqué, il est teint à ce moment-là, il n'est pas teint ensuite dans des bains, mais il est teint vraiment au moment de la fabrication du fil lui-même, ce qui est bien moins impactant en termes écologiques, en termes de consommation d'eau notamment. Donc en revanche, bien sûr, ça a contraint à un certain nombre de fils en fait, qui sont possibles et disponibles. Donc on a les sacs sont entièrement basés sur ces matières-là. Deuxième principe, on a travaillé sur la réduction des fonctions du sac, c'est-à-dire que c'est pas un sac, comme on l'a dit tout à l'heure, plein de fonctions et très technique, on va dire. C'est un sac vraiment qui doit être accessible, et donc pour ça, on a vraiment fait un travail de sobriété, de simplification sur toutes les fonctions du sac. Il a vraiment le strict nécessaire. En plus, là, on voit la version 20 litres. On voit qu'il a une grande poche, une petite poche à l'intérieur pour les petits effets et deux poches à l'extérieur. Et puis les sangles, en fait, le nombre de boucles, le nombre de sangles, etc. ont été vraiment réduits. Sur les boucles, justement, sur toutes les pièces plastiques, plutôt que de chercher en fait, à avoir une parfaite homogénéité colorée, par exemple en ayant toutes les boucles et les zips de la même couleur que le tissu, on est plutôt parti sur des éléments standards. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui réduit beaucoup le coût et l'impact écologique, puisqu'on ne fait pas fabriquer, par exemple, des boucles de plein de couleurs. On s'appuie vraiment sur des boucles et des clips qui vont être noirs, etc. Voilà, et puis enfin, un dernier élément qui m'a beaucoup intéressé sur ce projet, c'est l'optimisation du patronage. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur des outils logiciels qui permettent d'optimiser la quantité de tissu en fonction de la forme qu'on dessinait. En dessinant en 3D la forme du sac, au moment de faire les prototypes, comme on voit ici à gauche là, on demande en fait à l'outil, on avait à disposition un outil qui nous permettait de voir en fait quel était le calepinage des pièces de tissu qui seraient découpées pour permettre d'avoir un minimum de pertes. Quand on va fabriquer des sacs, du coup on a vraiment le minimum de pertes, et ça c'est calculé en fait par un logiciel qui permet d'optimiser en fait l'utilisation de matière en fonction de la forme, du coup directement du sac. Donc le design impacte directement le coût, l'impact écologique au moment de la fabrication.
Oui, et puis en plus il y a toute une technique avec les tissus où il faut les mettre dans une certaine orientation si on veut qu'ils résistent. Hein, ça, le biais ou le voilà des voilà, choses comme ça
par la machine, c'est-à-dire que le tissu va être correctement positionné pour que techniquement il tienne, mais sa forme va être optimisée pour que le calepinage et le découpe ensuite qui est numérique se fasse le mieux possible, quoi. Voilà.
Que le sac se déforme pas trop rapidement, voilà. Ou des choses comme ça.
Tout à fait.
L'esthétique, alors vous dites il y a un peu comme une charte graphique quand on est dans l'édition.
Ouais,
hein.
C'est exactement ça.
Et quelle est la place à la création pour l'artiste? Est-ce qu'il y a des innovations quand même ou des votre coup de patte, si je puis dire, qui transparaît quelque part?
Pour parler plus globalement, en dehors de ce projet-là, selon les clients, selon les demandes qu'on a, selon les secteurs dans lesquels on intervient, on a une marge de manœuvre plus ou moins grande. Nous, on se plaît en fait à devoir ingérer et digérer les contraintes pour créer des projets innovants. Mais là, effectivement, on était sur un projet où il y avait beaucoup d'informations en entrée. Déjà, les informations techniques dont j'ai parlé, et puis le design langage dont je parlais aussi tout à l'heure, qui était assez posé, en fait, du côté de Quechua, et qu'il a fallu interpréter. Vraiment, c'est une interprétation de ce design langage pour l'appliquer avec les contraintes dont on a parlé à l'instant. Là où on a pu... on a fait un certain nombre de recherches d'esquisses qui rentraient toutes en fait dans ces contraintes-là. On a proposé plusieurs dessins, plusieurs manières en fait de retrouver les lignes de force. Par exemple, ces lignes diagonales qu'on a là sur le côté, le grand zip en U qui part par-dessus, l'espèce de boucle comme ça pour l'accrocher. Les lignes de force, on va dire, visuelles du sac, elles sont posées. Ensuite, à partir de là, nous, on essaie de voir aussi comment ça va matcher avec les fonctions qu'on veut avoir sur ces sacs. On va proposer ces différentes pistes. Il y avait des propositions plus ou moins techniques, on va dire, qui donnaient des sacs qui faisaient plus ou moins, qui donnaient l'impression d'un sac plus ou moins technique ou plus ou moins un peu grand public, on va dire. Et donc, ensuite, le client, en l'occurrence, ici Decathlon, a tranché et avec l'aide des utilisateurs. Il y a eu des tests d'utilisateurs, notamment sur les pré-séries, la version qu'on voit ici, qui a été essayée et commentée, on va dire, par des panels d'utilisateurs. Donc, les retours ne sont pas uniquement venus du client, mais sont venus aussi des utilisateurs du client. Voilà, ce qui est vraiment quelque chose au cœur de la démarche design globalement, c'est-à-dire qu'en design, on n'avance pas dans un projet tête baissée sans vraiment s'enquérir de ce qui se passe autour. On confronte le plus tôt possible, grâce à des maquettes, un projet à des utilisateurs, à une réalité ou à des contraintes techniques, à des industriels, etc. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. C'est en dialoguant avec les différentes parties prenantes d'un projet qu'on atteint quelque chose. Le design, c'est vraiment pas un travail qu'on fait tout seul, selon nous en tout cas, c'est comme ça qu'on le pratique, c'est vraiment un travail qu'on fait en collaboration avec le maximum d'acteurs en fait pour avoir le projet le plus juste possible.
D'accord. Voilà. Oui, et puis il y a ce souci de marier au mieux les contraintes techniques, la fonction, on va dire, et l'esthétique.
Tout à fait, exactement. C'est l'équilibre entre la simplicité des fonctionnels et aussi la simplicité, la sobriété et la désirabilité, on va dire, des objets qu'on va créer. Dans le cas de Decathlon, c'est un des plus gros employeurs de design en fait, en Europe, il me semble. En France, à coup sûr, mais en Europe même, il me semble. Ils ont déjà beaucoup intégré en fait les principes du design, le design en fait au sein de leur entreprise. Et ils ont en même temps tellement de besoins qu'il leur arrive, comme c'est le cas ici, de faire appel à des agences externes. Mais on voit à quel point, pour un certain nombre de produits, les produits correctement dessinés, dans lesquels vraiment on a investi en fait, du temps sur le design, se vendent bien. En fait. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas nouveau. Hein, mais tous les industriels ou tous les éditeurs de produits n'ont pas forcément cette démarche-là, et par contre, Decathlon l'a beaucoup. Et non seulement ils fabriquent des produits qui sont pour certains assez esthétiques, mais ils sont aussi dans des innovations de rupture en fait sur certains produits. Ils sont capables de proposer des innovations fonctionnelles en les diffusant à un large public. Donc nous on trouvait que c'était une collaboration vraiment intéressante avec eux.
Voilà, et puis chers auditeurs, la prochaine fois que vous irez acheter un sac à dos, vous aurez une petite idée de tout le travail qu'il y a eu en amont avant que le produit soit devant vous, offert à votre bourse. Merci beaucoup de toutes ces explications. Et puis,
avec plaisir.
Bonne continuation.
Merci, bonne journée.